Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui pour soutenir l'action contre la pollution par le Grand Port Maritime de Bordeaux. Le Grand Port Maritime de Bordeaux pollue les habitants, pollue l'environnement des bassins à flots et tout cela dans la plus totale impunité. Le port de Bordeaux pratique le carénage illégal. Le port de Bordeaux fait pratiquer des travaux de peinture, de ponçage, de divers travaux industriels sur des coques de navires qui provoquent des pollutions terribles de l'environnement aquatique, terrestre et aérien.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copanado!
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h. Et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h. Balance ton porc. Ce n'était pas une manifestation féministe contre les violences sexuelles ce lundi 4 mars devant le tribunal de Bordeaux. Non, balance ton porc s'écrit P-O-R-T. L'accusé est cette fois le Grand Port Maritime de Bordeaux, GPMB pour les intimes. Il est dans le viseur des habitants de notre quartier, plus précisément des habitants de la vingtaine de péniches qui flottent sur les bassins à flots, tout près de la radio La Clé des Ondes, et ceux des immeubles qui entourent ces mêmes bassins. Environ 10 000 personnes en tout. Ils étaient rassemblés devant le tribunal de Bordeaux à l'appel de 3 associations pour soutenir la procédure qu'ils entament à l'encontre du GPMB, Grand Port Maritime de Bordeaux donc, sur les pollutions et nuisances qu'ils subissent à cause de diverses activités portuaires dont nous allons reparler. Mais ce n'est pas le seul problème qui se pose autour de ce lieu, situé maintenant au cœur d'un quartier devenu très dense et dont il est le poumon. Plus qu'ailleurs, la question de la vie démocratique d'un quartier se pose. Comme partout dans la ville, le peu de contrôle des bétonneurs et promoteurs met les habitants devant le fait accompli de choix urbanistiques, pilotés essentiellement par la recherche de profits, peu d'habitats écologiques et durables, des choix de matériaux du siècle dernier, pas d'exigence sur l'efficacité énergétique des bâtiments, sur les équipements en panneaux photovoltaïques, sans parler des espaces verts terriblement absents. Mais en plus, le site du port est la propriété du GPMB, un EPIC, donc établissement public industriel et commercial, dont les dirigeants ne sont pas élus et ne sont pas vraiment animés d'un souci de transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui ne manque pas d'irriter les habitants qui subissent les activités du port. En fait, il n'y a pas un, mais 2 ou 3 problèmes qui se posent. Nous avions déjà consacré une émission aux habitants des péniches en juillet 2022. Ils s'inquiétaient déjà d'être expulsés du bassin à flot numéro 1, celui qui est le plus près de la Garonne. Et nous avions rencontré Camille, qui habitait sur une gravière réaménagée et qui nous avait précisé le contrat qui permet à ces péniches et gravières de stationner dans le port. On écoute Camille.
On est concessionnaire de l'espace public maritime, on n'est absolument pas propriétaire de nos emplacements, on a juste un droit de parking, pour dire les choses simplement, on a le droit de flotter ici et on profite du ramassage des poubelles, qui n'est même pas le ramassage de la métropole, quoi, qui est un service fourni par le port. Quoi.
Par le port. Et vous payez combien pour cet appointement?
Nous, pour un bateau comme le nôtre, c'est de l'ordre de 5 000 euros par an.
D'accord. Et là, l'usage du bassin à flot semble destiné à être modifié. Vous avez appris qu'il y avait des projets qui vous empêcheraient de rester, par exemple?
Tout à fait. Nous, on souhaite nous déménager dans le bassin numéro 2 par des soucis de gestion. Et puis surtout, je pense que le port a besoin de nos emplacements pour accueillir des nouveaux bateaux, on apprend récemment que c'est des yachts de luxe, des bateaux de milliardaires. Donc on est un petit peu choqué en fait du sort qui nous est réservé, parce qu'on est quand même les habitants historiques de ce quartier. On conteste pas que la ville elle évolue et que les usages du bassin y changent. Par contre, moi à titre individuel, je conteste, je trouve très malheureux pour l'image de notre ville et pour l'image de notre planète que on fasse la part belle à des gens qui ont fait leur fortune en défiscalisant, pour pas dire des mots plus grossiers, dans des paradis fiscaux. Je crois savoir, parce que sur leur site on voit les logos, que c'est avec le conseil, avec le département, la métropole, et il y a pas très longtemps sur leur newsletter on a vu qu'ils étaient soutenus aussi par le maire de quartier, monsieur Morin. Donc voilà, on parle de bateaux qui sont de l'ordre les plus petits, qui font 40 mètres. Faut savoir que le prix d'un bateau comme ça, c'est très simple, hein, faut multiplier la longueur par 1 million d'euros, donc un bateau de 40 mètres, c'est de l'ordre de 40 millions d'euros, quoi. Et donc on est dans des
trucs de luxe haut de gamme. Oui.
Ouais, ça fait tourner la tête. Et il faut savoir que là, c'est pas des gens qui habitent sur leur bateau, hein, c'est des joujoux, c'est pour s'amuser. Ouais. C'est des gens qui ont que ça à faire de s'offrir des loisirs à 40 millions d'euros, quoi.
Alors il serait question donc d'inciter tous les bateaux qui sont actuellement sur le premier bassin de migrer sur le bassin où il y a les voiliers
ou... Inciter, le mot est pas tout à fait juste, hein. On est sommé de nous déplacer sous peine de poursuite. Enfin, il n'y a pas d'alternatives qui nous sont proposées. Donc nous, on négocie avec le port depuis plusieurs années pour essayer d'être accueillis dans de bonnes conditions, hein, de faire d'obtenir un échange un peu gagnant-gagnant où tout le monde serait content. Eux récupèrent leur emplacement, ce qui me paraît légitime puisqu'ils sont propriétaires de leur infrastructure. Mais nous, en tant qu'habitants, on a été acceptés ici, les plus vieux habitent ici depuis 20 ans. On voudrait bien être reconnus dans ce droit d'habiter dignement. Je dis pas que les conditions qui nous sont proposées sont indignes, mais on nous parle d'augmentation de loyers qui sont de l'ordre du doublement des loyers, des choses qui sont pas acceptables, qui sont pas tenables pour les habitants. C'est-à-dire, voilà, on peut pas à la fois avoir laissé s'installer ici des habitants, on peut pas ignorer qu'on a des contingences qui sont liées à l'habitation sur l'eau. Et maintenant dire vous êtes des parasites et vous vous mettrez là sagement, on vous dit de vous mettre et on vous donnera ce qu'on a envie de vous donner.
Il y a pourtant sur ce bassin là, tu me disais tout à l'heure, des bateaux où vivent des gens qui sont dans la précarité. C'est pas des, on n'est pas là sur des bateaux de luxe dans lesquels vivent de riches nababs. C'est pas du tout ça, puisqu'il y a des gens qui, pour qui c'est leur seul logement. Enfin, je dis, il ne pourrait pas se payer un logement autrement.
Oui, nous, c'est le cas. On a trouvé cette solution qui a été un plan B au départ parce qu'on n'avait pas les... On voulait construire une maison. On avait un peu de sous de côté, mais on n'avait pas les moyens d'acheter à Bordeaux. Donc, on a acheté un bateau au poids de la ferraille. Je ne vais pas raconter ma vie, mais on l'a construit nous-mêmes de nos mains. Il y a d'autres... la plupart des gens qui habitent ici ont payé leur bateau à crédit. Et puis ils n'ont pas de maison de vacances, ils n'ont rien d'autre que leur bateau, donc à un moment donné, voilà, faut bien considérer qu'augmenter le loyer des bateaux ici, doubler le loyer à terme des bateaux ici, c'est mettre des gens à la rue.
Les craintes de Camille ont été confirmées dès le début de l'année 2023. Le GPMB a alors informé les habitants qu'ils devraient déménager vers le bassin flot numéro 2, en raison d'un réinvestissement du bassin numéro 1 pour accueillir des bateaux nécessitant des arrêts techniques. Cette décision a été accompagnée d'une augmentation substantielle du tarif des concessions, ce qui a provoqué la colère des habitants qui contestent le bien fondé de cette augmentation. Le GPMB a alors accusé les habitants de déverser leurs eaux usées dans le bassin à flot, ce qu'ils ont contesté. Et en manifestant devant la mairie de Bordeaux en janvier dernier, il les a ensuite mis en demeure devant le tribunal administratif pour obtenir leur expulsion. La décision du tribunal administratif sera rendue le 14 juin prochain. Mais les habitants des Péniches, qui s'estiment actuellement harcelés par le GPMB, ont décidé le 28 février dernier de l'assigner pour dégradation du bassin numéro 1 et pour préjudice lié au doublement de leur redevance d'occupation. Voilà pour le résumé du premier volet de cette affaire. Et revenons à la manifestation du 5 mars. On écoute Anaïta Le Bourdiec, présidente de l'association du village des Péniches.
Le port de Bordeaux ne prend aucune des mesures de sécurité légales obligatoires depuis bien longtemps. Le port de Bordeaux pratique donc le carénage illégal depuis bien longtemps et n'a que faire de se mettre aux normes. Alors, souvenez-vous, il y a moins d'un mois, le port de Bordeaux faisait savoir dans toute la presse que non, il ne pratique pas du tout de carénage sur le port de Bordeaux, et ce depuis des années. Dommage, parce que nous, on a trouvé des photos, des vidéos, et puis de toute façon, c'était pas très dur à prouver qu'on le voit se faire poncer allègrement. Les ouvriers qui pratiquent le carénage sont protégés, eux. Ils ont des masques à gaz, des lunettes de protection, et des tenues complètes, vous imaginez, sont des cosmonautes comme à la bonne époque du Covid quand on rentrait dans un labo de niveau P4. Et nous, on est à côté, les gars. Il se passe quoi, en fait? Vous savez que la première habitation est à 20 mètres environ de la forme de radeau numéro 1. Bon, vous voulez faire bronzette sur votre balcon? Manque de bol. À la place, vous chopez un cancer. Vous chopez une maladie immunitaire, vous attrapez une bronchite chronique d'origine inconnue. C'est vrai qu'on n'était pas assez pollués par les nanoplastiques, les microplastiques et j'en passe, les polluants éternels. Grâce au port de Bordeaux, nous avons de nouveaux petits amis dans notre sang et nous sommes exposés à des cocktails de molécules, toutes plus sympathiques les unes que les autres. Il y a donc le mercure, le cadmium, l'arsenic, le plomb, plein de choses joyeuses. Voilà à quoi nous expose allègrement le port de Bordeaux en toute impunité. Donc là, nous sommes trois associations. Le bassin à flot numéro 2, les pénichiers, donc le BAF 1, et puis les riverains, donc les habitants, vous savez, ceux qui ont leur balcon. Voilà, donc cette assignation pollution, le port la reçoit, le port est choqué. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez accusé de pollution à tort, à votre avis? Eh ben, vous renverriez toutes les preuves de vos agréments, de vos pratiques vertueuses, de vos cahiers des charges écolos, et puis ça serait terminé, n'est-ce pas? Et croyez-vous que le grand port maritime de Bordeaux a fait cela? Eh ben non, il n'a rien fait du tout, le port maritime de Bordeaux a répondu, écoutez, votre procédure ne se plaidra pas au tribunal judiciaire, mais bien administratif. Est-ce que c'est vraiment de ça que l'on parle, Jean-Frédéric Laurent? Ou est-ce qu'on parle de la santé des habitants qui vont être exposés et qui sont déjà exposés de manière chronique à des cocktails de molécules inconnues, dangereuses, cancérigènes?
Voilà donc le deuxième volet de cette affaire, qui est celui de la pollution due aux activités de carénage notamment, qui se font dans les formes de radoubes. C'est une sorte de bassin qui permet l'accueil des navires et leur mise à sec pour leur entretien. C'est pour cette pollution que les associations assignent le GPMB au tribunal judiciaire, car elles estiment qu'il y a mise en danger des populations. Elles sont trois solidaires dans cette procédure. L'OBAF, l'association des usagers des bassins à flot numéro 1, l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, et l'association du village des Péniches. Quel danger y a-t-il exactement? Eh bien, il faut savoir que les coques de bateaux souffrent de la corrosion et se recouvrent donc d'organismes marins indésirables dont on cherche à éviter l'incrustation en peignant les coques avec un produit spécial appelé anti-fouling. Donc le carénage consiste à sortir régulièrement les bateaux de l'eau pour éliminer les organismes marins qui se sont installés sur la coque, ainsi que l'anti-fouling à poser précédemment, avant de passer ensuite une nouvelle couche d'anti-fouling. Si celui-ci est attaqué, il faut le poncer et les poussières que provoque le ponçage de cet anti-fouling sont toxiques et la réglementation européenne impose des dispositifs de collecte de déchets toxiques produits par cette opération et leur retraitement. C'est un des services que devrait offrir le port. En l'absence de cales spécialisées, les déchets devraient être récupérés sur bâche et éliminés en tant que déchets toxiques. Parce que cet anti-fouling peut s'avérer particulièrement néfaste pour les écosystèmes. Ça s'est déjà vérifié dans le passé, puisque sur le bassin d'Arcachon, en 1975, les ostréiculteurs ont rapporté des anomalies de développement et des malformations importantes des coquilles d'huîtres. L'Ifremer a mis alors rapidement en cause l'usage de ces anti-foulings qui contiennent bien de puissants biocides, notamment à l'époque les tributyles éthyl, TBT. Cette crise a d'ailleurs conduit à une interdiction large des peintures contenant du TBT à partir de 1982. Depuis, on utilise de nouveaux biocides comme l'ergarol, mais aussi du cuivre, que l'on retrouve en quantité importante dans le fond du bassin, et qui ne provient donc pas de l'agriculture bio, comme on l'a dit souvent. Toutes ces molécules sont toxiques puisqu'elles visent à tuer des organismes vivants qui pourraient s'accrocher au bateau. Et on peut imaginer que sous forme des poussières fines obtenues avec le ponçage, eh bien, elles pénètrent encore mieux nos poumons. Nous avons demandé à Naïta si leur plainte était appuyée par des analyses.
Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore lancé les analyses. Elles sont en, il y a un début de préparation pour faire des analyses préliminaires. Mais nous demandons des analyses de sol, d'air et d'eau. Ce que nous avons, c'est des certitudes quant aux pratiques du port. Donc, on sait ce qui relargue. On sait que c'est très toxique. On sait que c'est pas nettoyé. On sait qu'il n'y a aucune des mesures de sécurité minimale obligatoire qui est mise en place. Donc on sait qu'on va trouver beaucoup de saletés. On a encore aujourd'hui partout sur la darse des résidus de sablage qui forment ce petit gravier noir plein d'hydrocarbures, on le voit hein, sur la darse, qui date de carénages sauvages qui sont encore pratiqués aujourd'hui hein, sur la darse, en dehors même des formes de radoux. Donc le sablage, c'est vraiment de la projection à très haute pression.
C'est une activité très polluante,
voilà,
ça c'est sûr.
Exactement.
Mais justement, c'est effectivement au port de faire les analyses pour prouver qu'il n'y a pas pollution et peut-être pas aux associations.
Oui, quelque part, je suis d'accord. D'une certaine manière, cette preuve devrait revenir au port puisqu'il n'a pas respecté les principes de précaution. Maintenant, en justice, je pense que c'est probablement à nous que reviendra de faire les analyses.
Vous écoutez Climat de lutte avec Sylvie Noni sur la Clé des Ondes.
Vous écoutez Climat de lutte et nous sommes toujours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux où manifestaient ce lundi 5 mars trois associations, l'association des usagers des bassins à flots, celle de la défense et de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flots et l'association du village des Péniches présidée par Anaïta que nous venons d'entendre. En cause, cette fois, et c'est le deuxième volet de cette lutte, la pollution de l'air et de l'eau provoquée par l'activité de carénage qui a lieu sur les formes de radoub, mais aussi la pollution des terrains de toute cette zone des bassins à flots qui a vu bon nombre d'activités industrielles, comme à l'emplacement du H37 ou sur le site de l'ARMI, l'atelier de réparation maritime et industrielle rue des Étrangers. Le port a décidé de conserver ce bâtiment contre l'avis de l'association d'habitants, concédant simplement de le réduire d'un tiers. Certes, il est promis un espace vert de 6000 m² à côté, mais on s'interroge sur comment un jardin pourrait-il être compatible avec les activités de cet atelier. Nous écoutons maintenant Maître Alice Houlgar, avocate des plaignants.
Là aujourd'hui c'est une audience donc relativement à la pollution qui est générée par les activités du port et par les installations des différentes entreprises qui l'envisagent. Donc pour l'instant nous en sommes, c'est un premier appel du dossier. Donc le grand port a déposé ses conclusions, c'est-à-dire sa position adverse. Et donc à cette audience-là, je demande un renvoi pour que ce soit jugé dans un mois, puisque je vais répondre aux arguments du grand port. Voilà. qui pour l'instant sont un peu, pas vraiment des arguments, puisqu'ils souhaiteraient que le dossier soit attrait au tribunal administratif et qu'il refuse, comme à son habitude, d'être jugé devant les tribunaux civils, bien que ce soit un établissement public, industriel et commercial qui normalement est soumis au droit privé.
Voilà. D'accord, il cherche donc à échapper à cette juridiction.
Voilà, à chaque procès, il cherche à échapper à cette juridiction parce que, évidemment.
Ils attendent de la complaisance.
Exactement,
du tribunal administratif.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc nous en sommes là. Après, j'aurais pensé que le port aurait pu balayer cette assignation d'un revers de main en nous produisant, par exemple, la dépollution du sol concernant les travaux qui sont faits au H37 ou éventuellement concernant aux activités de carénage et à tout ce qu'ils ont mis en place pour éviter qu'il y ait une pollution liée à ça. Et en fait, non, ils avancent pas. Enfin, ils avancent pas. Aucun argument pour l'instant. La défense est un peu une non-défense, je dirais. Voilà. À part la volonté de ne pas être attrait devant les juridictions civiles. Voilà, ce qui est assez dommage parce que ça aurait pu être un non-sujet, ça aurait pu rassurer les populations et ce qui finalement agrandit le doute. Voilà.
Mais le port de Bordeaux est un accoutumé de ce genre de démarche.
Oui.
Et il ne se sent pas du tout obligé de...
Non, de justifier de quoi que
de
ce
justifier.
Soit. Cela étant, ça aurait pu éteindre un peu l'incendie. Je pense que les bassins à flots, c'est quand même 10 000 personnes, qu'au jour d'aujourd'hui, toutes sont représentées via les associations, c'est-à-dire les péniches, le port de plaisance, plus toutes les résidences. Ça génère quand même tous les habitants du bassin à flots. Et là encore, le dossier rebondit toujours dans la défense adverse de dire ce ne sont que quelques péniches qui sont vindicatifs et qui saisissent le tribunal de tous les côtés. Or, pas du tout. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas des histoires de péniches et d'expulsion, etc. Il s'agit de santé publique et d'une cause publique, quoi. Et ça, il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de rebond, je dirais, du port pour rassurer les gens et dire qu'il y a un certain respect de leur part relativement à la pollution et aucun. C'est bien dommage. Oui, oui.
Et alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez accès à des documents montrant le projet d'installation dont on parle depuis 2 ans,
oui,
de cette activité de refit
de
yacht et de super yacht?
Oui, tout à fait. Alors nous avons tout. Hein, c'est-à-dire que, de toute façon, il y a eu... ils ont organisé des meetings relativement à ça. Donc il y a des documents officiels qui viennent du port, qui font état des projets qu'ils ont, d'une part. Et d'autre part, il y a eu beaucoup d'articles, et en particulier dans Sud-Ouest, qui fait état de l'installation de Clyde... où le président de Clyde est en photo indiquant qu'il déplace ses installations au bassin à flots et plus particulièrement qu'il va faire du rétrofit sur les bateaux et en particulier installer des moteurs à hydrogène. Et quand on dit ça au port, ils nous répondent non, mais Clyde ne va pas manipuler d'hydrogène. Donc je vois pas très bien comment ils peuvent installer des moteurs à hydrogène sans manipuler d'hydrogène. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Ce qui est assez triste, je dirais, c'est qu'il y a eu un article dans le Figaro où le port se défend et uniquement sur la pollution, là encore en disant ce ne sont que les péniches qui nous tirent à boulet rouge et non, nous ne faisons pas de carénage et non, il n'y aura pas de manipulation d'hydrogène. Et à l'inverse, c'est pas la réalité et donc d'avoir le cran quand même de convoquer le Figaro pour indiquer ça, c'est assez perturbant quand même et encore plus pour les gens qui se sont concernés. Voilà.
Eh bien, merci, maître.
Mais je vous en prie, merci à vous de vous intéresser à ce sujet.
Enfin, le troisième aspect, et non des moindres de cette lutte, c'est l'orientation politique des activités du port. Il est essentiel, bien sûr, d'y maintenir une activité navale, puisqu'il y a des bateaux à entretenir, et ne pas voir ce port se transformer en atelier de touristes. Mais d'abord, les ateliers de carénage doivent être bâchés, pourvus de tous les dispositifs de sécurité réglementaire pour éviter toute dispersion dans l'air et dans l'eau des produits toxiques. Il faut bien sûr que les anciens sols industriels soient dépollués. Et enfin, l'orientation vers une activité de refit des super yachts et des méga yachts nous paraît inadmissible à l'heure où tout devrait nous pousser à la sobriété. Comment se fait-il que l'objet de cette activité de refit ne soit pas interrogé dans les orientations du port et même dans celles des élus qui participent au conseil d'administration de ce grand port maritime de Bordeaux, parce que ces monstres des mers, donc de plus de 30 mètres, surconsommateurs de carburant, destructeurs des herbiers d'algues de Posidonie lorsqu'ils sont en stationnement, outils de fraude fiscale, ne sont pas seulement des lubies de milliardaires, ils mettent en évidence la sécession sociale et environnementale des plus riches. Tirer les fils du super-yachting, c'est dévider toute la plotte du capitalisme fossile. Il faut bien sûr interdire les super-yachts, les méga-yachts, comme les jets. Et pour vous en convaincre, nous renvoyons à la lecture de l'ouvrage de Grégory Salles, Super-yacht, luxe, calme et écocide.
Je suis le garçon de la lune, à califourchon sur ma plume. J'allume mille et une lucioles, lance des paroles, paroles. Ni rançon, ni château, je suis un pirate en radeau. Main dans les poches, buste en avant, aux falaises j'accroche des bancs. Je vois le monde à la verticale, toute ma vie reste bancale. Aux falaises accroche des bancs, j'observe le soleil levant, un garçon de la rébellion, la cage qui contient le lion. Je ris de mes ratures, la vie c'est l'aventure. Bomber le torse, filer devant, aux falaises j'accroche des bancs. Et je vois le monde à la verticale, faut avouer c'est pas banal. Ma main la dragonne, et puis qu'on me pardonne, poèmes en flèches aiguisées, si je ne sais pas désaimer. Je suis le garçon de cyanure, l'effronté qui grimpe les murs, main dans les poches à toute allure, au palais je rends mes armures. Je vois le monde à la verticale, toute ma vie reste bancale. Je suis ton poète maudit, depuis ma cage j'aboie ton nid. On peut m'écrire sans dire un mot, je suis l'oiseau dans le tableau. Je suis le garçon joli, celui de tes nuits endormies, toi le poisson qui nage gréco, aux falaises accroche des mots. Je vois le monde à la verticale, faut avouer c'est pas banal. Je vois le monde à la verticale, toute ma vie reste bancale. Ma vie reste bancale.
C'était Le garçon rendu les armes de et par Julie Lagarrigue, une artiste bordelaise qui sera d'ailleurs en concert au Rocher de Palmer ce dimanche. Quelques nouvelles de nos écureuils maintenant, ceux qui, courageusement, continuent de s'opposer à la construction de cette autoroute A69 insensée entre Castres et Toulouse.
Dire que l'État a l'obligation d'écouter mes recommandations. l'invocation et de les mettre en œuvre.
Nous, on est là avec des vivres, sachant que légalement, nous, on doit aller les ravitailler. C'est-à-dire, vous avez suivi comme nous, il y a le rapporteur de l'ONU, etc., qui a donné des recommandations qui ont quand même un pouvoir. Vous devez les respecter, ces recommandations. Je comprends que vous êtes dans une situation compliquée, mais nous aussi, on est dans une situation compliquée. On doit porter assistance à ces personnes-là. Donc, on va aller les ravitailler. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir y aller à quelques-uns en bonne intelligence. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dans les sacs. Je veux dire, il n'y a aucun souci. C'est simplement les ravitailler, donner à boire et à manger à des personnes qui en sont privées depuis 15 jours. C'est-à-dire, je pense qu'humainement, on est d'accord.
Je comprends maintenant, ouais. Mes ordres sont
pas... Oui, mais la loi, il y a des lois au-dessus de vos ordres. Donc pour respecter la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, on n'est pas dans la confrontation, on a proposé une délégation, ils le refusent, on va avancer de manière tout à fait pacifique, puisqu'on a le devoir d'aller donner à manger et à boire à des personnes qui depuis 15 jours en sont privées. Ils sont en train de détruire tout ce qu'ils ont dans les arbres, donc on va avancer, et puis maintenant, l'histoire décidera de ce que vous faites, vous.
Monsieur, je ne vais pas pouvoir vous laisser passer. Bon, c'est vrai, les gars.
J'ai pas d'armes. Ce sont mes livres, c'est à manger et à boire. C'est manger et à boire pour des gens qui en ont besoin.
Il y a des voitures derrière.
C'est à manger et à boire pour des gens qui en ont besoin. On a le devoir d'y aller. On a le devoir d'y aller. Vous êtes allés également.
À boire, à manger, à boire, à manger, à boire, à manger.
Nous sommes en France en 2024. Des militants soutiennent pacifiquement ceux qui, en grimpant dans les arbres, s'opposent à l'abattage de ces derniers, pendant que les gendarmes, sur ordre du préfet, empêchent depuis 15 jours les militants du collectif La Voix est libre d'apporter à boire et à manger aux écureuils. Et ce ne sont pas les seules exactions des forces de l'ordre qui ont tout tenté pour rendre la vie impossible à ces écureuils depuis la fin février. Les cris d'animaux, les lampes stroboscopiques utilisées la nuit pour les empêcher de dormir, les intimidations, les insultes, notamment il y a même eu des menaces de viol de la part des forces de sécurité durant les premières nuits de siège. C'était l'œuvre d'une compagnie de CRS. On a même vu des gendarmes arroser d'essence les pieds des arbres dans lesquels étaient grimpés des militants. Toutes ces violences ont été dénoncées par un rapporteur spécial de l'ONU qui a enquêté sur les méthodes de maintien de l'ordre en Europe. La répression que subissent actuellement en Europe les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains. Voilà ce qu'écrit Michel Forst en préambule d'un long rapport publié le 28 février sur la répression par l'État des manifestations et de la désobéissance civile environnementale. Face à l'inaction des États à propos de la crise climatique, le rapporteur estime que les militantes et militants exercent leurs droits fondamentaux à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association garantie par le droit international relatif aux droits humains. Il dresse ensuite une longue liste de tout ce que les militants subissent en Europe. Répression et brutalité policière, poursuites judiciaires, arsenal juridique répressif, atteinte à la liberté de la presse, tout cela constitue, selon lui, une menace majeure pour la démocratie, les droits humains. Les autorités publiques semblent considérer toute perturbation comme une forme de violence ou de menace pour la sécurité publique et, sur cette base, restreignent indûment l'exercice du droit de réunion pacifique ou interdisent totalement certaines formes de manifestation. Le rapporteur déplore le fait que les organisations et militants environnementaux soient qualifiés d'éco-terroristes et comparés à des organisations criminelles en France, mais aussi en Autriche et en Allemagne. Éco-terroristes, répression policière, tout cela nous amène à reparler de Sainte-Soline, mais bon sang, c'est bien sûr. C'était il y a un an, le 23 mars 2023, qu'avait lieu cet énorme rassemblement contre un projet de bassine à Sainte-Soline, et ce sous un déluge de grenades et d'armes de guerre en tout genre, déversées sur 30 000 manifestants pacifiques, dans un champ où il n'y avait aucun bien matériel à protéger. Et le 22 mars, c'est aussi justement la journée mondiale de l'eau. Autant de bonnes raisons de marquer l'événement, et nous avons demandé à un militant de BNM, Aspic, le programme de ce qui se prépare du côté du Marais Poitevin.
Bah, ce programme a été conçu pour revenir sur l'événement tragique, particulièrement sur la violence qui s'est là institutionnalisée, qui est récurrente depuis des années et qui là a atteint une acmé insensée d'une certaine mesure. Donc là, on est la question de témoigner, de continuer de témoigner, de continuer à être présent est absolument essentiel. Donc ça, c'est l'objet principal. Cet objet passe par aussi la présentation d'images, de tables rondes, d'expositions. Donc ça sera la journée du 31 mars. Et le 23 mars, le samedi 23 mars, là sera consacré à un événement de construction d'un cairn.
Tu expliques ce que c'est qu'un cairn ?
Alors, le cairn, c'est... sans entrer dans les détails, c'est un objet traditionnel que beaucoup de cultures utilisent, principalement pour donner une orientation. Moi, j'aime bien dire savoir qu'on est au bon endroit ou dans la bonne direction, sur le bon chemin. Voilà. C'est un tas de pierres. C'est un tas de pierres posées sans maçonnerie, dans lequel différentes cultures l'utilisent de différentes manières. Bon, on est aussi, à titre indicatif, près d'un lieu où il existe des tumulus, donc des objets très très anciens, qui ont aussi des méthodes de construction identiques, tout simplement des constructions en pierre sèche, quoi, tout simplement. Ça peut être un bel événement, c'est un petit peu comme ce qui s'est fait sur le convoi de l'eau. Je veux dire, la construction, l'introduction en fait du convoi par le cairn cet été, l'été 23, c'est une action participative, c'est une action très symbolique, très forte. Là, on va essayer de plus la structurer. Et ça peut être aussi un moment très fort, très important. D'autant que cet objet aurait vocation à être pérenne, s'installer, à rester là. Donc, avec une certaine distance de Sainte-Soline, mais disons que voilà, c'est une chose qui pourrait durer, s'entretenir, avoir une présence, voilà, et en même temps une présence un peu distanciée justement des événements. Donc ça, c'est aussi un élément potentiellement très fort. Ensuite, ça c'est la matinée du samedi 23. L'après-midi va être consacré à un tournoi de pétanque, une sorte de dérision des armes par destination qui ont été extraites des coffres des voitures par les forces de l'ordre. Donc une manière, la manière un peu, comment dire, même carrément humoristique de BNM de reprendre la main un petit peu sur la langue, sur le langage, et de tourner en dérision des choses. Tourner en dérision un certain discours.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, le lundi 25.
Oui.
Le lundi 25 va être consacré à aussi une autre forme de dérision. La manière de comment dire, on pourrait dédramatiser un petit peu cette situation explosive de Sainte-Soline, en reprenant la forme de l'explosion, avec des objets qui ne, justement ne peuvent pas être des armes par destination, c'est-à-dire l'idée d'un appel national à faire des explosions avec des poches en plastique, des poches en papier,
des explosions de joie.
Des explosions de joie, tout à fait. Voilà, ça.
Ça s'appelle là, ça va fêter, si j'ai bien compris, cette soirée-là.
Oui, c'est ça. C'est ça. Hein,
Et c'est un appel qui est destiné à tous les groupes des soulèvements ou autres organisations de la France entière.
Oui, je pense que, effectivement, plus les luttes se s'empareront de cette chose-là, plus grand sera la pertinence. Oui, je pense que c'est une chose qui se partage, qui doit se partager et qui se partage. On le voit sur la 69, on le voit sur particulièrement là où on a été capable de vider des réservoirs au pied des arbres, des réservoirs d'essence, de mettre des gens dans une situation absolument insensée, de danger, des gens pacifiques. Donc là, c'est juste. Faut juste dire stop à ça.
Tout à fait.
Voilà. Donc, encore une fois, j'ai une position, je ne suis pas porte-parole, rien du tout, j'ai une position d'artiste. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'une certaine mesure le travail de la langue que produit BNM. Bassine, non merci, avec son humour, avec sa manière de reprendre. Reprendre du vivant dans toutes ces choses qui sont aussi absolument dramatiques, tous ces événements dramatiques.
Et alors, dimanche 31 mars, il y a une grande journée à Mel, c'est donc le week-end suivant, tu l'évoquais, avec des tables rondes, des débats, et puis des projections aussi.
Oui, ça se passera au Métallum de Mel, au cinéma de Mel, sur la journée. Avec effectivement des expositions, l'idée de présenter des objets qui ont été fabriqués pour Sainte-Soline, par exemple, des images des luttes, et puis avec la projection de deux films de Off Investigation, il me semble. Et puis évidemment l'idée de construire un débat sur cet événement en particulier et bien d'autres. Faut continuer à être présent contre ces projets mortifères. Il n'y a pas d'autre mot. Là, je vais reprendre des clichés qu'on pourrait considérer comme des clichés, mais oui, il y a en tout cas entre ces projets et la répression qui se font sur les gens qui les dénoncent, là il y a vraiment quelque chose d'absolument insensé qui est en train de se passer. Et donc, il faut continuer à être présent.
Merci à Aspic pour toutes ces précisions. Nous mettons le programme détaillé de l'opération Ça va fêter sur la page de l'émission. N'hésitez pas à covoiturer pour vous y rendre entre amis. Vous trouverez aussi sur cette page des liens vers les sites de la lutte contre la 69. Et là encore, si vous avez le temps et le moyen de les rejoindre, ne serait-ce qu'un ou deux jours, pour les soutenir dans leur combat, n'hésitez pas. Plusieurs podcasts de Climat de lutte sont des reportages sur place de cette lutte contre la 69. Enfin, beaucoup plus près de nos auditeurs en FM, il y a les associations des bassins à flot. N'hésitez pas à les rejoindre, on vous laisse leurs coordonnées. Toutes nos émissions sont en podcast sur le site laclédesondes.fr, rubrique émission, Climat de lutte au pluriel. Et nous sommes preneurs de tous vos commentaires à l'adresse climatdelutte@laclédesondes.fr. À la semaine prochaine.